comte de l'Alhambra, le gouverneur Manchot et le soldat. Dans le temps où ce gouverneur Manchot, dont nous venons de parler, tenait l'Alhambra sur un pied militaire respectable, il se lassa, un beau jour, des reproches qu'on lui adressait continuellement sur la population de sa forteresse, qui était devenue, en effet, un véritable repère de vagabonds et de contrebandiers. Tout à coup, le vieux potentat fit maison nette, et non seulement le fort, mais les cavernes nombreuses, qui font ressembler à des rayons de miel les collines d'alentour, furent purgés de leurs habitants équivoques. Il fit de plus battre les avenues et les sentiers par des patrouilles qui avaient ordre d'arrêter tous les gens suspects. Par une belle matinée d'été, l'une de ces patrouilles, composée du vieux caporal déterminé, déjà cité dans l'affaire du greffier, d'un trompette et de deux simples soldats, se reposait à l'ombre de la muraille du Generalife sur le chemin qui suit le mont du Soleil. Ils entendirent le pas d'un cheval, puis une voix mâle et dure, mais assez juste, chantant une vieille ballade guerrière. Bientôt après, ils virent un homme vigoureux, profondément hâlé par le soleil et le grand air, vêtu d'un vieil uniforme d'infanterie et conduisant par la bride d'un superbe cheval arabe caparaçonné à l'ancienne façon mauresque. Surpris de voir un soldat, étranger à la forteresse, descendre avec ce beau cheval cette montagne solitaire, le caporal s'avança et lui cria « Qui vive ?»« Ami, qui êtes-vous ? » ?»« Un pauvre soldat qui revient de l'armée en rapportant pour toute récompense de ses services une tête cassée et une bourse vide. » Alors, se trouvant assez près de l'homme pour faire un examen plus minutieux de sa personne, ils virent qu'il avait un bandeau noir sur le front, une barbe grisonnante, un air de singulière audace, qu'un certain clignotement d'yeux mêlait par moments d'une gaieté goguenarde. Après avoir répondu aux questions de la patrouille, le soldat parut se croire le droit de lui en adresser à son tour. « Oserais-je vous demander, fit-il, quelle est la ville que j'aperçois au bas de la montagne ?»«
Belle question !» s'écria le trompette.
« Vous moquez-vous de nous ? Un homme qui rôde à travers le mont du soleil et qui vient nous demander le nom de la grande ville de Grenade ?»«
Grenade ? Santa Madre de Dios, est-il possible ?»«
Eh non, reprit le trompette, ce n'est pas elle, et vous ne croirez pas non plus que ces tours que vous voyez sont celles de l'Alhambra ?»«
Fils d'un trompette, répliqua le soldat, je ne plaisante pas avec toi, mais si c'est en effet l'Alhambra que je vois, j'ai d'étranges choses à révéler au gouverneur. »«
Et vous aurez bientôt l'occasion de les révéler, dit le caporal, car nous allons vous conduire devant lui. »
En même temps, le trompette avait pris la bride du coursier et les deux autres s'étaient emparés chacun de l'un des bras du soldat. Le caporal se mit à leur tête, cria « En avant, marche !» et ils avancèrent sur l'Alhambra. La vue du soldat déguenillé et du beau cheval arabe conduit par la patrouille attira l'attention de tous les badauds de la forteresse et de ces groupes de commères qui s'assemblent près des puits et des fontaines au point du jour. La roue de la citerne s'arrêta et la servante aux pieds nus resta bouche béante, sa cruche à la main, regardant le caporal passer avec sa prise. Un cortège bigarré se formait derrière l'escouade à mesure qu'elle avançait. Des signes de tête, des regards d'intelligence furent échangés de tous côtés. De tous côtés, chacun communiquait ses conjectures à son voisin.
« C'est un déserteur, » disait l'un.
« Un contrebandier, » disait un autre.
Un bandolero, disait un troisième.
Enfin, l'on soutint que c'était le capitaine d'une bande de voleurs déterminés qui avait été pris par le vaillant caporal et sa troupe.
Bien, bien, se disaient entre elles les vieilles pies. Capitaine ou non, qu'il se tire, s'il peut, de la griffe de notre gouverneur. S'il n'en a qu'une, elle est bonne.
Le gouverneur Manchot, assis dans l'une des salles intérieures de l'Alhambra, prenait son chocolat avec son confesseur, moine franciscain à la face rebondie. Une jeune personne aux yeux noirs modestement baissés, fille de sa femme de charge, le servait. La chronique scandaleuse disait que cette jolie créature qui, malgré son maintien réservé, était une friponne avisée, avait trouvé l'endroit sensible du cœur de fer du vieux gouverneur et le menait, comme l'on dit, à la baguette. Mais laissons cela. Les affaires domestiques de ces grands personnages ne doivent pas être examinées de trop près. Quand on vint donner avis au gouverneur qu'un étranger suspect avait été pris rôdant autour de la forteresse et se trouvait actuellement dans la cour extérieure, sous la garde du caporal, attendant les ordres de son excellence, le cœur de ce digne homme s'enfla de joie et d'orgueil. Il remit sa tasse dans les mains de la modeste demoiselle, demanda son épée à large poignée, l'attacha à son côté, releva ses moustaches, se plaça sur un fauteuil à grand dossier, prit un air formidable et ordonna que le prisonnier fût amené en sa présence. Le soldat fut donc amené, toujours fortement empoigné par ceux qui l'avaient pris et gardé par le caporal. Il conservait néanmoins un certain air de résolution et d'assurance, et répondit au regard pénétrant et scrutateur du gouverneur par une mine goguenarde qui ne plut nullement aux vieux et pointilleux monarques.
« Accusé, dit le gouverneur après l'avoir considéré un moment en silence, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Qui êtes-vous?
Un soldat qui revient de la guerre et n'en rapporte rien que des blessures et des contusions.
Un soldat? Et d'après votre uniforme, vous appartenez à l'infanterie? Mais vous avez, dit-on, un beau cheval arabe. Je suppose que vous le ramenez aussi de l'armée, outre vos blessures et contusions.
Sauf le bon plaisir de votre excellence, j'ai quelque chose de fort étrange à dire à propos de cet animal, quelque chose de merveilleux, et qui, de plus, intéresse la sûreté de la forteresse, même de la ville de Grenade et de tout le royaume. Mais je ne puis le confier qu'à votre excellence seule, ou en présence de ceux auxquels elle accorde sa confiance. » Le gouverneur réfléchit un instant, puis commanda au caporal et à ses hommes de se retirer, en se tenant toutefois de l'autre côté de la porte, afin d'être prêts à rentrer à son appel.
« Ce saint moine, dit-il, est mon confesseur.
Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez devant lui.
Et cette demoiselle, continua-t-il, en désignant de la tête la chambrière, qui était restée et donnait des marques de la plus vive curiosité,
cette demoiselle est pleine de prudence et de discrétion. On peut lui confier les choses les plus secrètes. » Le soldat lança un regard moitié moqueur, moitié galant, à la modeste demoiselle, et dit « Je consens très volontiers à parler en présence de mademoiselle. » Quand tous les autres furent sortis, le soldat commença son histoire. Il parlait avec facilité, et son langage paraissait au-dessus du rang que son extérieur annonçait.
« Pour obéir aux ordres de votre excellence, dit-il, je lui dirai que je suis, comme je l'ai déjà déclaré, un pauvre soldat qui a vu de rudes campagnes. Mais mon temps de service étant expiré, j'ai été licencié dernièrement à Valladolid et suis parti de là à pied pour mon village en Andalousie. Hier, Le soleil se couchait comme je traversais une vaste plaine desséchée de la vieille Castille.
« Halte là !» dit le gouverneur. « Prenez-vous garde à ce que vous dites. La vieille Castille est à 100 lieues d'ici. »
« Je le sais, » reprit le soldat sans s'émouvoir. « J'ai prévenu votre Excellence que j'avais d'étranges choses à raconter, mais elles sont aussi vraies qu'elles sont étranges, comme votre Excellence pourra le voir, si elle daigne m'écouter avec patience. »
« Poursuivez et accusez, » dit le gouverneur en relevant sa moustache.
Comme le soleil se couchait, continua le soldat, je jetai les yeux autour de moi pour chercher un gîte. Mais aussi loin que ma vue pouvait s'étendre, je ne découvrais aucun signe d'habitation. Je vis bien qu'il me fallait coucher sur la terre dure, avec mon havresac pour oreiller. Mais votre Excellence est un vieux soldat. Elle sait que, pour celui qui a fait la guerre, une nuit passée à la belle étoile n'est pas une grande affaire.
Le gouverneur baissa la tête affirmativement en tirant son mouchoir de la poignée de son épée pour chasser une mouche qui bourdonnait autour de son nez.
« Pour abréger, » reprit le soldat, « je marchais encore quelque temps et me trouvais près d'un pont jeté sur un profond ravin au milieu duquel coulait un petit filet d'eau, reste d'un ruisseau tari par la chaleur de l'été. Une tour mauresque, élevée à l'un des bouts du pont, était ruinée dans toute sa partie supérieure. Mais une voûte, sous ses fondations, était encore entière.
« Voici, dis-je en moi-même, une excellente halte. »
Je descendis jusqu'au ruisseau et me désaltérai de son eau pure et fraîche, avec un délice inexprimable, car je mourais de soif. Alors, ouvrant ma valise, j'en tirai un oignon et quelques croûtes de pain qui formaient toutes mes provisions. Et, m'asseyant sur une pierre au bord du ruisseau, je commençai à souper, me proposant ensuite de prendre mes quartiers sous la voûte. Et c'eût été d'excellents quartiers pour un soldat qui revient de la guerre.
Votre Excellence, vieux soldat est le même, sera sans doute de mon avis.
« Je me suis accommodé de pis dans mon temps, » dit le gouverneur, en remettant son mouchoir dans la poignée d'épée. Tandis que je croquais mes croûtes tranquillement, poursuivit le soldat, j'entendis quelque chose dans le caveau. J'écoutai, c'était le pas d'un cheval. À l'instant, un homme sort d'une porte pratiquée dans les fondations de la tour et tout près des bords de l'eau. Il conduisait un vigoureux cheval par la bride. J'avais peine à distinguer sa figure, à la faible clarté des étoiles. Mais un homme rôdant ainsi parmi les ruines d'une tour, en ce lieu sauvage et solitaire, devait exciter le soupçon. Ce pouvait être, il est vrai, un voyageur comme moi, mais ce pouvait être aussi un contrebandier ou un bandolero. Peu m'importait au reste. Grâce au ciel et à ma pauvreté, je n'avais rien à perdre. Je restai donc paisiblement assis à manger mes croûtes. L'homme conduisit son cheval au ruisseau et je pus alors l'examiner à mon aise. À ma grande surprise, je vis qu'il était en costume mauresque, avec une cuirasse d'acier et un armet poli, que je distinguais par le reflet de la lumière des étoiles sur lui. Le cheval était aussi harnaché à la manière des Maures, avec de larges étriers. Cet animal fut donc mené au ruisseau par son maître, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il plongea sa tête dans l'eau et but si longtemps que je pensais qu'il allait crever.
« Camarade, dis-je à l'étranger, « votre cheval boit bien, c'est bon signe quand un cheval plonge bravement son museau dans l'eau. »«
Il peut bien boire, » dit l'homme en parlant espagnol, mais avec l'accent mauresque.
« Il s'est écoulé une grande année depuis la dernière fois qu'il a bu. »«
Par Saint-Jacques, » dis-je, « cela passe même les chameaux que j'ai vus en Afrique. »«
Mais vous m'avez l'air d'un militaire. »
Mettez-vous là et prenez votre part d'un souper de soldat. » Dans le fait, il me semblait si agréable de trouver un compagnon dans ce lieu désert que je ne sentis aucune répugnance à m'associer momentanément avec un infidèle. D'ailleurs, comme votre Excellence le sait très bien, un soldat n'est jamais très scrupuleux sur la religion de ceux avec lesquels il fait société, et les militaires de tous les pays sont camarades lorsqu'ils se rencontrent sur un terrain pacifique. Le gouverneur baissa de nouveau la tête en signe d'assentiment. Comme je disais donc, je l'invitai à partager mon souper tel qu'il était, car l'hospitalité la plus commune n'exigeait pas moins. « Je n'ai pas le temps de m'arrêter pour manger ou boire, » me dit-il. « J'ai une longue route à faire avant le lever du soleil. »« Dans quelle direction ? » dis-je. « Du côté de l'Andalousie. » C'est mon chemin aussi, et puisque vous ne voulez pas vous arrêter pour vous rafraîchir avec moi, vous me permettrez peut-être de monter en croupe derrière vous. Votre cheval me paraît de force à porter double charge. » J'y consens, dit le cavalier. Et certes, un homme poli, un militaire, ne pouvait répondre autrement, surtout après que je lui avais offert la moitié de mon souper. Ainsi donc, il monta à cheval, et je me plaçai derrière lui. « Tenez-vous bien, » me dit-il, « mon cheval va comme le vent. Ne craignez rien pour moi, » dis-je, et nous voilà partis. Le cheval alla d'abord d'un bon pas. Ensuite, il prit le trot, puis le galop, enfin une course à bride abattue, un vrai train de diable. Il semblait que les rochers, les arbres, les maisons, s'enfuyaient pêle-mêle derrière nous. « Quelle ville est cela ? » demandai-je à mon compagnon. « Ségovie, » me dit-il. Et il avait à peine prononcé ce mot que les tours de Ségovie étaient hors de notre vue. Nous montâmes les chemins escarpés des montagnes de Guadarrama et redescendîmes du côté de l'Escurial. Nous passâmes devant les murs de Madrid et traversâmes les plaines de la Manche, toujours avec la même rapidité. De cette manière, nous courûmes à travers des vallées, des collines et devant des châteaux et des villes où tout était enseveli dans un profond sommeil. Enfin, pour abréger mon histoire et ne pas abuser de la patience de votre Excellence, le cavalier s'arrêta subitement sur la crête d'une colline. « Nous voici, » dit-il, « au terme de notre voyage. » Je regardai de tous côtés et ne vis aucune trace d'habitation, mais seulement l'ouverture d'une caverne. Tandis que j'examinais la place, une multitude de gens en habits mauresques, les uns à cheval, les autres à pied, arrivèrent comme s'ils étaient portés par les vents de tous les points de l'horizon et se précipitèrent dans la bouche de la caverne comme des abeilles dans leur ruche. Avant que j'eusse pu faire une question, le cavalier donna de l'éperon à son cheval et se lança avec la foule. Nous suivîmes un passage étroit et tournant qui descendait jusqu'au cœur de la montagne. Pendant que nous avancions, une lueur se montrait toujours de plus en plus brillante autour de nous, comme si c'eût été les premiers rayons du jour. Mais je ne pouvais discerner bien précisément ce que c'était. Elle devint enfin assez éclatante pour me permettre de distinguer les objets qui m'entouraient. Je vis, à droite et à gauche du chemin, de grandes cavernes qui ressemblaient aux salles d'un arsenal. Dans les unes, des boucliers, des sabres, des lances, des casques, des cuirasses étaient suspendus aux parois. Dans les autres, des munitions de guerre de toute espèce couvraient le sol. Il eût été bien doux, pour le cœur d'un vieux soldat comme votre Excellence, de voir tant de belles et bonnes munitions de guerre. Cependant, plusieurs autres cavernes étaient remplies de cavaliers rangés en bataillon, armé jusqu'aux dents, la lance en arrêt et les enseignes déployées comme pour aller au combat. Mais ils restaient immobiles sur leurs chevaux comme autant de statues. Dans d'autres salles étaient des guerriers endormis à côté de leurs coursiers et des groupes de fantassins prêts à reprendre leur rang. Tous étaient vêtus à l'ancienne façon des morts. Enfin, pour abréger mon histoire et ne pas fatiguer votre excellence, nous entrâmes dans une immense caverne, ou plutôt un palais, dont les murs étaient veinés d'or et d'argent, et resplendissants de saphirs, de diamants et de toutes sortes de pierres précieuses. Un roi mort était assis au fond sur un trône doré, entouré de seigneurs et d'une garde de noirs africains, le sabre nu à la main. Toute la foule, qui continuait à descendre, et qui se composait de milliers et de milliers d'hommes, défilait devant le trône de ce roi et lui rendait hommage. Quelques-uns étaient magnifiquement vêtus, en belle robe blanche sans tache, étincelante de diamants. D'autres étaient couverts d'armures brunies et superbement ornées. D'autres aussi avaient des habits fanés et tombant en lambeaux, des armures rouillées et détériorées. Jusque-là, j'avais gardé le plus profond silence, car votre excellence sait bien qu'un soldat ne doit pas faire de questions pendant une affaire. Mais je ne pus tenir ma langue plus longtemps. Camarade, dis-moi, je te prie, ce que signifie tout cela. C'est un grand et terrible mystère, me répondit le cavalier. Sache, ô chrétien, que tu vois ici Boabdil, le dernier roi de Grenade, avec sa cour et son armée. Que me dites-vous là? M'écriai-je. Boabdil et sa cour ont été exilés, il y a plusieurs siècles, de ce pays, et tous sont morts en Afrique. C'est ce que disent vos chroniques mensongères, répliqua le mort. Mais sache que Boabdil et les guerriers qui combattirent les derniers pour la défense de Grenade furent tous renfermés dans le sein de cette montagne qui la domine par un puissant enchantement. Quant au roi et à l'armée qui sortirent de la ville en la cédant à l'ennemi, ce n'étaient que des fantômes, des démons à qui Allah permit de prendre ses formes pour tromper les rois chrétiens. Je dirais plus, toute l'Espagne est un pays enchanté. Il n'existe pas dans ces contrées une caverne dans les montagnes, une atalaya isolée dans les plaines, un château ruiné sur les collines, qui ne soit l'habitation de quelque guerrier qui dort sous la terre ou sous des voûtes, jusqu'à ce que les péchés pour lesquels Allah a permis que cet empire passât aux mains des infidèles soient expiés. Une fois par année, la veille de la Saint-Jean, tous sont délivrés de la puissance de l'enchantement depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever et peuvent offrir leurs hommages à leur souverain. Cette multitude que vous avez vue entrer dans la caverne se compose de guerriers musulmans venus des lieux divers où ils sont enchantés dans toutes les parties de la contrée. Vous avez vu cette nuit la tour du pont de la vieille Castille, où j'ai passé les étés et les hivers, depuis plusieurs centaines d'années, et dans laquelle je dois être rentré aux journées cent. Quant aux bataillons de cavalerie et d'infanterie que vous avez vus tout armés dans les cavernes voisines, ce sont les guerriers de la garnison de Grenade. Il est écrit dans le livre du destin qu'aussitôt que l'enchantement sera rompu, Boabdil descendra de la montagne à la tête de son armée et reprendra son trône dans l'Alhambra et sa domination pour Grenade. Puis, rassemblant autour de lui les guerriers enchantés de tous les points de l'Espagne, il soumettra la péninsule entière et la fera rentrer sous le joug musulman. « Et quand cela doit-il arriver ? » dis-je. « Allah le sait. Nous avons espéré un instant que le jour de notre délivrance était proche. Mais un vigilant et intrépide soldat, bien connu sous le nom du gouverneur Manchot, règne à présent dans l'Alhambra. Tant que ce vieux guerrier commandera les avant-postes et se tiendra prêt à repousser la première irruption des montagnes, je crains fort que Boabdil et son armée ne soient obligés de reposer tranquillement, appuyés sur leurs armes. » Ici le gouverneur se redressa, rajusta son épée et releva sa moustache. Pour abréger mon histoire et ne point fatiguer votre excellence, je lui dirai que le cavalier, après m'avoir donné ses explications, descendit de cheval. « Demeurez ici un instant, me dit-il, et tenez mon cheval, tandis que j'irai saluer le roi Boabdil. » Tout en parlant ainsi, il se perdit dans la foule qui se pressait autour du trône. « Que vais-je faire ? Me dis-je à moi-même. Dois-je attendre le retour de cet infidèle pour qu'il m'emmène sur son coursier fantastique ? Dieu sait tout. Dois-je profiter de son absence pour battre en retraite et me tirer de cette compagnie de revenants ? Un soldat a bientôt pris sa résolution, comme le sait très bien votre excellence. À l'égard du cheval, il appartenait à un ennemi de la foi et du pays, et, suivant toutes les règles de la guerre, il était de bonne prise. Ainsi donc, me haussant par-dessus la croupière, je me mis en selle, tournai la bride, enfonçai les larges étriers morts dans les flancs du coursier et remontai au plus vite le passage par lequel j'étais descendu. En passant devant les cavernes dans lesquelles les cavaliers morts étaient immobiles, je crus entendre un sourd murmure de voix et un cliquetis d'armes. Je donnai à ma monture un second coup d'éperon et doublai le pas. Alors j'entendis derrière moi comme un tourbillon de vent. Bientôt après, le bruit de la cavalerie en marche. Je fus entouré et dépassé par une foule innombrable, entraîné au milieu de la presse et poussé jusqu'à la sortie de la caverne, où je vis des millions d'ombres disparaître dans toutes les directions. Dans le tumulte et la confusion de la scène, je tombai à terre privé de sentiments. Et quand je repris connaissance, je me trouvai couché sur le sommet d'une colline et le cheval arabe à côté de moi. Car dans ma chute, mon bras avait glissé dans la bride, ce qui, je le suppose du moins, empêcha cet animal d'aller retrouver son maître dans la vieille Castille. Votre Excellence peut aisément juger de ma surprise, lorsqu'en regardant autour de moi, je vis des aloès, des bananiers et d'autres attributs des climats méridionaux. Et au-dessous de la colline, une grande ville avec des tours, des palais, une vaste cathédrale. Je descendis la côte avec précaution, emmenant mon cheval par la bride, car je n'ose le monter de peur qu'il ne me joue quelque mauvais tour. En descendant, j'ai rencontré votre patrouille, de laquelle j'ai appris que j'étais aux portes de Grenade et dans la juridiction de l'Alhambra, la forteresse de ce redoutable gouverneur Manchot, la terreur de tous les morts enchantés. Quand j'entendis cela, je me déterminai à me présenter à votre excellence et à l'informer de tout ce que j'avais vu et des périls qui l'entourent. Une fois instruite, votre excellence peut prendre les mesures convenables pour garantir et le fort et le royaume de cette armée intestine qui guette le moment de les attaquer du fond des entrailles de la terre. Et dites-moi, l'ami, vous qui avez vu plus d'une campagne, que me conseilleriez-vous de faire pour prévenir le danger? Il convient mal à un humble soldat qui n'est jamais sorti des rangs de dire son avis, dit l'homme d'un air modeste. Encore moins d'oser le proposer à une personne telle que votre excellence. Mais puisqu'elle m'ordonne de lui dire ma pensée, il me semble que je ferai soigneusement boucher toutes les ouvertures de la montagne, en ouvrage de maçonnerie bien solide, afin de fermer tout passage à Boabdil et à son armée, qui resteront ainsi bloqués dans leur souterrain. De plus, si ce bon frère, continua-t-il en saluant le frère et en se signant dévotement, si ce bon frère voulait consacrer les barricades par sa bénédiction, y planter quelques croix, y placer des reliques ou des images de saints, je crois qu'elle pourrait défier la puissance de tous les enchantements de ces infidèles.
Ce serait sans doute d'un grand effet, dit le moine.
Le gouverneur saisit de son bras unique le pommeau de sa bonne épée de Tolède, regarda fixement le soldat et, branlant la tête d'un air d'incrédulité,
« Ami, dit-il, est-ce bien moi que vous croyez pouvoir duper avec votre coq à l'âne de montagne et de mort enchantée? Prenez garde à vous, accusé. Pas un mot de plus sur tout cela. Vous pouvez être un vieux soldat, mais vous avez affaire à un soldat aussi instruit que vous des ruses de guerre, et à qui l'on n'en donne pas facilement à garder. Holà, garde, que l'on mette les fers aux pieds et aux mains de cet homme. »
La modeste chambrière aurait bien voulu glisser un mot en faveur du prisonnier, mais le gouverneur lui imposa silence d'un regard. Pendant que les gardes se saisissaient du soldat pour exécuter les ordres du gouverneur, l'un d'eux sentit quelque chose de dur et d'un volume assez considérable dans la poche de cet homme. Il s'en empara et vit que c'était une longue bourse de cuir qui paraissait bien garnie. En la prenant par le fond, il versa son contenu sur la table du gouverneur. Et jamais sac de flibustier ne dégorgea rien d'aussi splendide. C'étaient des colliers, des bagues de prix, des rosaires en perles, des croix de brillants et une profusion d'anciennes monnaies d'or, qui s'échappèrent en tintant sur la table et dont quelques-unes roulèrent jusqu'aux extrémités de la salle. Pour un instant, les fonctions de la justice furent suspendues. Chacun s'empressait de courir après les brillantes fugitives. Le gouverneur seul, imbu de la véritable dignité espagnole, conserva toute sa gravité, bien que son œil suivît ce qui se passait avec un peu d'anxiété, jusqu'à ce que la dernière pièce et le dernier bijou eussent été remplacés dans la bourse. Le franciscain n'était pas si calme, son visage était rouge comme une fournaise enflammée, et ses yeux lançaient des éclairs à la vue des croix et des rosaires. « Misérable sacrilège ! » s'écria-t-il. « Quelle église, quel couvent as-tu pillé ? Quel sanctuaire as-tu dépouillé de ses reliques ?»«
Je n'ai pillé ni couvent ni église, mon père. Ces dépouilles, sacrilèges ou non, ont dû être prises dans les anciens temps par le cavalier mort dont je vous ai parlé. » J'allais vous dire, lorsqu'on m'a interrompu, qu'en prenant possession du cheval de cet enchanté, je décrochais de l'arçon de la selle une bourse qui contenait probablement ce que l'infidèle avait pillé dans ses courses quand les morts ravageaient notre pays.
« Fort bien, dit le gouverneur. Maintenant, vous pouvez vous arranger pour prendre vos quartiers à la Tour Vermeille, qui n'est point sous un charme magique, mais dans laquelle vous serez aussi sûrement gardés que vos morts enchantés peuvent l'être dans vos cavernes.
« Votre Excellence fera ce qu'elle jugera à propos, dit le prisonnier froidement. Je serai toujours extrêmement reconnaissant qu'elle me loge dans la forteresse. Un soldat qui a fait la guerre, comme Votre Excellence le sait fort bien, s'accommode de tout et n'est point difficile sur son logement. Pourvu que j'aie un petit donjon et des rations régulières, je me trouverai assez heureux. Je supplie seulement Votre Excellence de veiller sur sa forteresse avec autant de soin que sur son pauvre prisonnier et serviteur, et de ne pas oublier la vie que j'ai osé lui donner sur la fermeture des issues des cavernes. »
Ainsi finit la scène. Le prisonnier fut conduit à la tour vermeille, le cheval arabe dans les écuries de son excellence et le sac déposé dans son coffre-fort. Sur ce dernier article, le capucin fit quelques objections, prétendant que les reliques et les croix, étant évidemment des dépouilles sacrilèges, devaient être remises sous la garde de l'Église. Toutefois, comme le gouverneur ne voulut point admettre ses prétentions et qu'il était souverain absolu de l'Alhambra, le moine ne poussa pas plus loin la discussion, mais résolut en secret d'informer du fait les dignitaires diocésains. Pour expliquer ces promptes et rigides mesures du gouverneur Manchot, il faut savoir que vers ce temps, les Alpuxards étaient horriblement infestés de voleurs, commandés par un chef intrépide nommé Manuel Borrasco. Ce brigand dévastait tout le pays environnant, et souvent même entrait dans Grenade sous différents déguisements afin de se procurer des renseignements sur le départ des convois de marchandises ou des voyageurs qu'il prenait soin d'égarer dans les passages les plus solitaires de leur route. Ces méfaits réitérés attirèrent l'attention du gouvernement et les commandants militaires des divers postes reçurent l'ordre d'examiner tous les étrangers suspects que l'on trouverait errant dans les parages. Le gouverneur Manchot mit un zèle particulier à cette recherche pour effacer le mauvais renom qu'avait reçu sa forteresse, qui passait en général pour le refuge de tout individu poursuivi par la justice. Et il ne douta point en cette occasion qu'il n'eût en son pouvoir le redoutable capitaine de la bande. Cependant l'aventure circula et devint le sujet des caquets, non seulement de la forteresse, mais de toute la ville. On racontait comme quoi le fameux voleur Manuel Borrasco était tombé sous la griffe du gouverneur Manchot, qui l'avait renfermé dans un cachot de la tour vermeille. Tous ceux qui avaient été volés par ce bandit vinrent en foule le reconnaître. On sait déjà que les tours vermeilles s'élèvent sur une colline parallèle à celle sur laquelle est construite l'Alhambra, mais hors de son enceinte. Aucune muraille extérieure n'en défend l'approche. Aussi l'on mit une sentinelle devant la tour qui renfermait le prisonnier et la fenêtre de sa chambre, qui était pourvue de forts barreaux de fer, donnait sur une petite esplanade. Là, tous les bonnes gens de Grenade venaient le contempler comme ils auraient contemplé une hyène farouche grimaçant à travers les cages d'une ménagerie. Personne, toutefois, ne le reconnaissait pour Manuel Borrasco. Ce bandit formidable était remarquable par la férocité de sa physionomie et n'avait point la mine goguenarde du soldat. On vint le voir non seulement de la ville, mais de tous les coins de la province, et pas un seul de ses visiteurs ne le reconnut. Alors quelques doutes s'élevèrent sur la vérité de l'histoire qu'il avait faite. Plusieurs vieillards avaient entendu conter à leur père que Boabdil et son armée étaient retenus sous la montagne par la force d'un enchantement. Un grand nombre se rendit au mont du soleil, ou plutôt de Santa Elena, pour y chercher la caverne mentionnée par le soldat. Ils virent ce puits obscur qui s'enfonce dans la montagne, on ne sait jusqu'à quelle profondeur, et que l'on croyait en ce temps, comme de nos jours, l'entrée de la demeure de Boabdil. Insensiblement, le soldat prit faveur parmi le peuple. Le bandit des montagnes n'est point regardé avec mépris en Espagne, comme il le serait en tout autre pays. C'est une sorte de personnage chevaleresque aux yeux des gens des classes inférieures. D'ailleurs, il existe partout
certaines dispositions à blâmer les actes de l'autorité, spécialement les mesures de rigueur. Aussi, l'on ne tarda guère à murmurer contre celle du gouverneur Manchot et à considérer le captif de la tour comme un martyr. En outre, ce soldat était un joyeux compagnon. Il avait une plaisanterie pour chacun de ses visiteurs, un compliment galant pour chacune de ses visiteuses. Il s'était procuré une vieille guitare et chantait des ballades et des romances à sa fenêtre aux grandes délices des femmes du voisinage qui se rassemblaient le soir sur l'esplanade pour danser au son de sa musique. Comme il s'était débarrassé de sa barbe grise et hérissée, son visage bruni par le soleil ne parut pas trop désagréable aux belles. Et la modeste chambrière du gouverneur déclara même que son regard malin était irrésistible. Cette sensible demoiselle avait montré dès leur première entrevue une tendre sympathie pour ses infortunes. Et après avoir vainement essayé d'adoucir la rigueur du gouverneur, elle s'était occupée elle-même d'en mitiger les effets. Chaque jour, elle apportait aux prisonniers quelque bonne chose, soit de la desserte du gouverneur, soit des provisions de son buffet. Et parfois, elle y joignait une consolante bouteille de Valdepeñas de choix ou d'excellent Malaga. Tandis que cette petite trahison avait lieu dans le sein même de la citadelle, le vieux gouverneur était menacé d'une attaque plus sérieuse par ses ennemis extérieurs. La circonstance de la bourse, pleine d'or et de bijoux, trouvée sur la personne d'un voleur supposé, avait été rapportée à Grenade avec beaucoup d'exagération. Aussitôt le capitaine général, ancien rival du gouverneur, éleva une question de juridiction territoriale. Il prétendit que l'homme ayant été pris hors de l'enceinte de l'Alhambra se trouvait ressortir à son autorité. Il réclama donc sa personne et les dépouilles opimes saisies avec lui. En même temps, le capucin, ayant informé le grand inquisiteur des croix, des rosaires, des reliquaires contenus dans la bourse, ce dernier réclama de son côté l'accusé comme coupable de sacrilège, et soutint que les objets qu'il avait payés appartenaient à l'Église et son corps au bûcher. La contestation devint très vive entre ces grands personnages. Le gouverneur Manchot, furieux, jurait que, plutôt que de rendre son captif, il le ferait pendre dans l'Alhambra, comme un espion pris dans sa banlieue. Le capitaine général menaça d'envoyer un corps de troupes enlever le prisonnier de la tour vermeille et le transférer à Grenade. Le grand inquisiteur était également tenté de dépêcher un certain nombre de familiers du Saint-Office pour le même objet. Le gouverneur eut vent de ses machinations. « Qu'ils viennent, dit-il, je les attends de pied ferme. Ils trouveront à qui parler. Il faut qu'il se lève bien matin celui qui veut surprendre un vieux soldat. » Il donna des ordres en conséquence pour que le prisonnier, dès la pointe du jour, fût transféré dans la prison intérieure de l'Alhambra. « Mon enfant, dit-il en s'adressant à la modeste demoiselle, frappez à ma porte avant que le coq chante, afin que je puisse veiller à cette affaire moi-même. » Le jour parut, le coq chanta, mais personne ne vint frapper à la porte du gouverneur. Le soleil était déjà au-dessus de la cime des montagnes et brillait sur les créneaux avant que le vieux soldat ne fût réveillé de ses songes du matin par son caporal fidèle qui parut au pied de son lit, la terreur peinte sur son visage de fer. « Il est parti, il s'est sauvé !» s'écriait le vétéran hors d'haleine. « Qui s'est sauvé ? Le soldat, le bandit, Le diable peut-être, car son cachot est vide, mais la porte en est très bien fermée, et personne ne comprend comment il a pu s'échapper.
Quelle est la dernière personne qui l'a vu?
Votre gouvernante, elle lui a porté son souper. Qu'on la fasse venir à l'instant.
Mais voici bien un autre sujet de trouble. La chambre de la modeste demoiselle aux yeux baissés était également vide, et l'on voyait que son lit n'avait pas été défait. Il était évident qu'elle s'était sauvée avec le prisonnier, car l'on se souvint que depuis quelques jours, ils avaient de longues conversations ensemble. Ce dernier coup frappait le gouverneur dans l'endroit le plus sensible de son cœur. Mais il eut à peine le temps de réfléchir là-dessus avant que de nouveaux malheurs vinssent détourner son attention. En entrant dans son cabinet, il vit que son coffre-fort avait été ouvert, que la bourse du soldat en avait été extraite, et avec elle, une couple de gros sacs de doublons. De quel côté les fugitifs s'étaient-ils échappés? On ne pouvait le deviner. Enfin, un vieux paysan, qui habitait une chaumière sur le chemin de la Sierra, déclara qu'il avait entendu, un peu avant le point du jour, le galop d'un cheval qui montait la montagne. Il avait regardé par sa fenêtre et avait distingué un cavalier portant une femme en croupe.
« Que l'on voit dans les écuries s'il manque un cheval !» dit le gouverneur Manchot. On y courut, on y trouva tous les chevaux, excepté le beau destrier arabe. À sa place était un gros bâton de voyageur, attaché au râtelier et portant cette inscription « Présent d'un vieux soldat au gouverneur Manchot ».